Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Salon des maires et des collectivités locales en direct et en podcast sur Radio Imo, Radio Territoria et la dernière année des web radio éditions Carbone Zéro. Et nous sommes d'ailleurs au cœur du lab territoire bas carbone. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains de nos invités, ça veut dire beaucoup. On va y revenir. Alors, ces invités, sans plus attendre, présentons-les. Il s'agit de, à ma gauche, Sabine Desnaux. Sabine, vous êtes directrice exécutive R&D Innovation RSE de Gecina, par ailleurs présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable, OID pour les intimes, et vous venez de créer BIG, et je vous laisserai nous expliquer ce dont il s'agit. À ma droite, Catherine Muller, présidente de l'interprofession Valor. Vous avez pris cette présidence il y a à peine 3 semaines. Et rappelons pour nos auditrices et nos auditeurs que le cycle hashtag Ville Nature sur les réseaux sociaux est porté par l'interprofession Valor dans le cadre du programme Cité Verte Europe avec le soutien de la Commission européenne, s'il vous plaît. À votre droite, Frédéric Pronchéry, maire de Belleville-en-Beaujolais et premier vice-président de la communauté de communes. Vous serez le premier à parler car vous recevez dans quelques instants, et vous serez en retard, un trophée en matière de biodiversité. On va y revenir dans le cadre du concours Capitale française pour la biodiversité 2021. Et enfin, last but not least, monsieur Étienne Langereau, maire de Montrouge, conseiller de la métropole du Grand Paris et puis vice-président du territoire dont je vous laisserai préciser le nom, dans lequel est inclus Montrouge. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est de parler entre les acteurs publics et privés. Je suis entouré de représentantes et représentants de ces deux facettes de parties prenantes, du lien qui peut exister autour de la biodiversité et des paysages. Je vais prendre une image extrêmement simple pour celles et ceux qui nous écoutent. Lorsqu'un citoyen se balade dans une ville, quelle que soit sa taille, ou lorsqu'un oiseau se pose sur un arbre, il n'a profondément que faire des limites administratives. Cet arbre peut tout à fait se situer dans l'alignement collectif et public de l'espace à proprement parler public, géré par la collectivité, comme se trouver à l'intérieur d'une résidence qui peut-être offre des vues sur l'espace public. On l'a vu et nous avons été nombreux à signer une tribune durant le premier confinement. On a vécu une sorte de paradoxe puisque les espaces ouverts nous étaient fermés. Mais quand on regarde dans le détail, ces espaces ouverts ne sont pas forcément des espaces publics. Certains parlent même de communs de nature. Eh bien, c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, la politesse, pour ne pas dire la bienséance, puisque nous sommes ici sur des sièges hauts, voudrait que mesdames prennent tout d'abord la parole. Mais monsieur Pronchéry, puisque vous allez recevoir dans quelques instants ce trophée, vous allez nous expliquer en quoi, dans une ville, une petite ville de demain, puisque vous êtes dans le cadre de ce programme. Je rappelle par ailleurs que Valor est partenaire du programme Action Cœur de Ville. Il y a eu un colloque très récemment sur le sujet, une ville de 13 000 habitants. En quoi est-ce que, là où la densité est un petit peu plus faible, vous êtes dans l'aire d'influence de la métropole lyonnaise, en quoi est-ce que ce sujet de la biodiversité du paysage est important et comment est-ce qu'on peut collaborer public-privé sur le sujet ?
Effectivement, c'est une thématique qui est extrêmement importante chez nous. Elle faisait partie des axes de la campagne municipale. C'était comment redonner... La ville s'est imposée à la nature et comment redonner la place de la nature dans la ville, faire que le citoyen se réapproprie la nature, y compris dans un milieu urbain. Et effectivement, nous sommes une ville d'environ 15 000 habitants et nous avons un fil rouge, c'est Belleville-en-Beaujolais, ville bioclimatique et positive en termes d'énergie en 2035. Donc c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux puisqu'il faut... On ramène 2050 à 2035 en termes d'énergie et on veut transformer le paysage de la ville. Transformer le paysage de la ville, c'est pas si facile que ça. Mmh. Il faut l'inventer. On n'est pas très nombreux en France à faire partie de ce club-là. Et donc, il faut se réapproprier la nature en ville. Comment se réapproprier la nature en ville? Il faut changer complètement les données. Donc, on a, depuis les élections, bloqué quasiment l'immobilier sur Belleville-en-Beaujolais pour le réouvrir très prochainement, mais en ayant modifié les règles du PLU, parce que effectivement le citoyen, il n'aime pas trop les règles, il veut pas trop les comprendre, on le comprend, c'est parfois un peu compliqué. Par contre, il sait très bien ce que c'est le PLU, parce que c'est ça qui lui donne le fil pour faire de l'urbanisation. Et donc, il faut d'abord maîtriser ces règles-là afin de pouvoir changer la façon de voir une commune. Et ce qu'on voudrait, c'est ramener le végétal au corps même de la ville. Alors, bien sûr qu'il y a déjà du végétal dans la ville.
Ah mais... Oui, vous êtes entouré de nature.
Oui, mais au cœur de la ville. Alors, ouais. Bien sûr, on a les crues du Beaujolais qui sont célébrées ce soir, mais on pense aux arbustes, on pense aux espaces verts, on pense à l'arbre. Mais c'est rien du tout par rapport, c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'on s'apprête à faire. On s'apprête à planter des milliers d'arbres, ramener des îlots de fraîcheur, et on s'apprête à changer l'aspect visuel de la ville. Mmh. Et on connaît tous la rue classique avec peut-être des rangées d'arbres quand ça le permet sur les côtés. Nous, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des arbres au milieu, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des pergolas au-dessus des rues. Et donc, en fait, on met tout en œuvre actuellement. On a retenu un bureau d'études, des bureaux d'études qui sont challengés eux-mêmes par des personnalités qualifiées qu'on a trouvées, de manière à pouvoir envisager complètement différemment l'aspect structurel de la ville, l'aspect visuel de la ville. Voilà.
Donc vous parlez de plan bioclimatique, c'est exactement la même chose que ce que Paris vient d'annoncer. Oui. Donc même combat, Paris, belle ville en Beaujolais. Généralement, on se dit que dans les villes très denses, et on va y revenir avec Montrouge, on a besoin de bulles de nature à l'intérieur de la ville. Là, ce qui se dit régulièrement, notamment le PUCA et POPSU qui ont fait ce fameux colloque sur les petites villes de demain il y a quelques jours, indique que dédensifier et apporter plus de nature dans les cœurs de villes de petite et de moyenne taille, c'est un outil pour lutter contre l'étalement, puisque ça redonne de la valeur au cœur de ville, y compris par l'esthétique, vous en parliez, et que du coup, ça redonne de l'attractivité à ces centres-villes, et que plutôt que d'avoir son modèle pavillonnaire classique, on est plus enclin à revenir ou à venir tout simplement peupler le centre d'une petite ville. Est-ce que c'est ça aussi qui vous motive ?
Oui, alors bien sûr, la végétalisation, le plan végétalisation au centre de cette grande étude urbaine, il est primordial, mais il faut jouer sur tous les acteurs, sur tous les thématiques, l'activité économique, l'activité de centre-ville attractif avec des commerçants qui soient qui aient des belles façades, qui gagnent bien leur vie. Il n'y a pas que le végétal, hein, c'est-à-dire que c'est le végétal va faire le lien de toutes ces thématiques qu'on connaît tous parfaitement dans nos communes, comme les acteurs privés d'ailleurs. Mais par contre, le végétal redevient au cœur du système. Et le végétal, il ne revient pas tout seul, parce qu'on est dans un réchauffement climatique, c'est indéniable, et qu'on aura des périodes de plus en plus chaudes et de plus en plus sèches. Et donc, il faut en même temps y coupler le stockage de l'eau au plus près d'où l'eau tombe. Et donc, on est en train d'associer le plan de végétalisation avec un plan de désimperméabilisation et également de captage de l'eau directement à l'endroit où elle tombe. Et donc d'irriguer les espaces verts.
Le végétal, la biodiversité, l'eau, le climat, on l'a compris, vous avez une démarche holistique, comme on dirait aujourd'hui, globale, c'est bien celle d'ailleurs des écologues et des paysagistes. Et on peut comprendre que votre communauté de communes a gagné ce prix. Alors peut-être deux mots pour celles et ceux qui nous écoutent, un peu de cocorico, de fierté pour vous, avant de filer recevoir ce prix, qu'est-ce que cela récompense et quelles sont les actions, en quelques mots, que vous avez menées ?
En fait, on a créé le Marathon de la Biodiversité. C'est une marque qui appartient maintenant à l'Agence de l'eau. En fait, on a créé, quand l'Agence de l'eau, qui est une agence d'État, s'est saisie de la biodiversité, on a répondu, on a remporté le plus gros appel à projet de l'Agence de l'eau, c'était recréer 42 mares et 42 km de haies. Et donc, l'Agence de l'eau, on a réussi ce pari-là en 3 ans. Et l'Agence de l'eau est intéressée par ce concept et nous a demandé de lui céder la marque qu'elle a déposée. Et maintenant, il y a une quinzaine de territoires, dont plusieurs grandes métropoles, qui sont engagés dans un marathon de la biodiversité.
Eh bien, c'est formidable. Merci beaucoup, Frédéric Pronchéry. On vous laisse aller prendre votre trophée. Eh bien, le Beaujolais nouveau, c'est ce soir, mais on vous incite tous à aller parcourir cette belle ville et cette belle région à la faveur d'un marathon de la biodiversité, si possible, avec un peu de Beaujolais, avec modération. Merci et à très bientôt. Alors, je me tourne tout de suite, sans plus attendre, parce que nous sommes un peu contraints par le temps, vers Sabine Desnaux, avant ensuite d'interroger le maire francilien que vous êtes, monsieur Langereau. Sabine Desnaux. Donc je vous ai présenté Gessina, l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc vous représentez les acteurs économiques, la promotion immobilière, en particulier une foncière pour ce qui est de Gessina. Plusieurs questions. Pourquoi vous intéressez au sujet de la biodiversité ? Quelle mouche vous a piqué, si je puis me permettre ? Et puis, qu'est-ce que Big et pourquoi faire ?
Alors, bonjour à tous.
Bonjour.
Beaucoup de questions. Le sujet de biodiversité, il est très prégnant chez Gecina déjà depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire que depuis 2011, on était déjà la première foncière à mettre en place un suivi avec quelques indicateurs sur le suivi sur la biodiversité. Et puis, nous avons aussi généralisé la labellisation biodiversité sur l'ensemble de nos immeubles en développement. Le constat, il est simple. En fait, je ne vais pas d'ailleurs m'étendre trop dessus, on le connaît tous. Enfin, il y a une érosion massive de la biodiversité. On parle de la sixième extinction de masse. Enfin, je rappelle pour tout à chacun, parce qu'on a toujours l'impression que c'est une sorte de bruit de fond de parler de cette sixième extinction de masse, mais que la cinquième extinction date d'il y a 65 millions d'années. Et donc c'était bien celle de la disparition des dinosaures. Donc on est en train de vivre actuellement. On a mis, en fait, par l'activité humaine, une mécanique en place qui est complètement autodestructrice. On sait que globalement, les acteurs de l'immobilier sont des contributeurs en réalité de cette érosion de la biodiversité et le secteur en a pris conscience et de façon de plus en plus prégnante ces dernières années et le secteur agit pour éviter l'artificialisation des sols, agit en recréant des surfaces végétalisées, des potagers urbains, des micro-habitats. Il est devenu assez courant de faire intervenir des écologues, en effet, sur l'ensemble des projets immobiliers, etc., etc. Et puis, je ne vous parle pas de la gestion des immeubles, avec une gestion écologique des espaces verts. On agit, mais si je fais le parallèle avec le carbone, aujourd'hui, quand on est une entreprise ou quand on a un projet immobilier en place, on sait mesurer une empreinte carbone. Et par contre, on ne sait pas mesurer une empreinte biodiversité. Donc il y a des tas d'actions qui sont mises en place, mais il n'existe pas un référentiel commun de mesure de la biodiversité. Et donc si je continue le parallèle avec le carbone, aujourd'hui, une entreprise sait mettre en place une trajectoire carbone. À défaut d'avoir un indicateur commun sur la biodiversité, ou plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas, ça sera à définir, on ne sait pas mettre en place aujourd'hui, on ne sait pas énoncer ce que pourrait être pour une entreprise de l'immobilier, en tout cas une trajectoire biodiversité. Puis si je pousse un peu la réflexion, de la même façon, on sait aujourd'hui donner une valeur économique au carbone. Faut-il, je vous pose la question, donner une valeur économique au capital nature ou continuer de considérer que cette ressource est infinie et donc qu'elle vaut zéro au moment où on doit faire nos différents arbitrages. Voilà. C'est tout l'objet de BIG. Alors BIG, c'est l'acronyme...
Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà.
Suspense. BIG, c'est l'acronyme de Biodiversity Impulsion Group. Et c'est une action collective. Nous avons fédéré toute une série de partenaires financiers, parties prenantes de l'immobilier. Nous sommes 16 aujourd'hui. Le lancement s'est fait là, tout à l'heure, là, ce midi. Suis-je autorisée à citer les partenaires ?
Absolument.
Merci Pierre. Donc, nous avons Air Nouvelle, Altarea Cogindim, Amundi, BNP Real Estate, Bouygues Immobilier, Covea, Crédit Agricole Immobilier, Gecina, évidemment, Groupama Immobilier, Corian, Link City, LVMH, Nexity, Perial, RATP et Schneider Electric. Donc on a vraiment des beaux noms, des grandes entreprises qui s'engagent avec nous autour de BIG. Alors qu'est-ce que c'est que BIG, plus que ce collectif ? C'est un programme de recherche appliquée et d'action collective qui va travailler à répondre aux différents objectifs que je viens de vous évoquer. C'est-à-dire, d'abord, comment définir ce qu'est la bonne métrique de la biodiversité dans notre secteur d'activité qui est l'immobilier. Bon, assez naturellement, on va mesurer des surfaces végétalisées pleine terre, etc. Il y a déjà quelques indicateurs qui existent. Mais on sait aussi, on l'a évoqué, d'ailleurs ce que disait Monsieur le maire auparavant, est en écho à tout ça, c'est que la biodiversité a aussi des externalités positives. Aujourd'hui, on a tendance à considérer, quand on parle par exemple de carbone, qu'un immeuble qui a zéro en biodiversité ou un immeuble qui a 1000 en biodiversité aurait le même impact carbone. C'est faux. À un moment donné, il va bien falloir intégrer le fait que cette biodiversité, cette nature en ville participe à la captation du carbone, participe, on est en train de vivre ce réchauffement climatique, au rafraîchissement aussi.
Ce que Monsieur le maire nous a indiqué aussi tout à l'heure.
Exactement. Et donc, il y a toutes ces externalités positives. Il y a d'autres types d'externalités positives, des bénéfices, des services qui nous sont rendus finalement par la nature. On le voit bien, plusieurs études démontrent que plus effectivement on a de la nature, plus la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs diminue.
D'ailleurs, je n'ai vu personne d'entre vous prendre un anxiolytique sur ce plateau. C'est grâce aux producteurs, aux fleuristes, membres des fédérations représentatives de valeurs. Nous y reviendrons avec Madame la Présidente tout à l'heure. Je vous sens détendue, Sabine. Pourtant, vous avez beaucoup de pression aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, je commence à me détendre. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est tout le sujet, ça va être de se dire, autant on sait mesurer du carbone, on a des tonnes équivalent CO2, on sait mesurer des kilowattheures quand on parle d'énergie, etc. On ne sait pas comment on mesure de la biodiversité dans un référentiel commun, et je ne sais pas si un seul indicateur suffira, et ça sera tout l'objet de ce programme de recherche. Et puis ensuite, il y a cette idée, et dans ces indicateurs, parce que notamment, il y a aussi toute cette dimension servicielle. Et puis, on se rend bien compte que ça nous oblige à sortir de l'immeuble. Enfin, le regard que l'on doit porter nous amène à sortir de l'immeuble et de se dire, finalement, ces bénéfices, ils sont sur l'échelle d'un territoire. Donc, je suis obligée de prendre en considération l'espace dans lequel je suis, la biorégion à laquelle j'appartiens. Et probablement que la même action en termes de biodiversité à Paris ou dans la Creuse ou à Lille ou je ne sais où n'aura pas le même impact. N'aura pas le même impact, de fait. Voilà. Donc voilà, BIG, c'est ce programme de recherche qui va travailler et sur ces livrables d'indicateurs et sur des livrables en termes de cartographie pour prendre en considération l'impact territorial. Et puis naturellement, un troisième grand type de livrable, c'est tous les dispositifs et outils qui vont permettre le déploiement de ces nouveaux indicateurs. Encore deux choses à dire qui me semblent très importantes, c'est que nous avons confié ce programme de recherche à l'OID, donc à l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est une association qui réunit une centaine d'acteurs de l'immobilier, afin de transformer la filière et qui est reconnue d'intérêt général. Donc toute la production sera ensuite mise à disposition effectivement de l'ensemble des acteurs. Et peut-être dernier point sur lequel je tiens à insister, parce que j'y crois profondément, c'est qu'avec ce type d'initiative, et il y en a d'autres, ce n'est pas la première, mais ce sont des nouveaux modèles de travail qui sont en train de se mettre en place, que j'appelle des modèles de coopétition. C'est-à-dire que la coopétition, c'est la contraction de coopération et de compétition. Et ce qui veut dire qu'on est toute une série d'acteurs à pouvoir être concurrents dans notre activité économique, mais avoir la capacité à collaborer pour ces enjeux de transformation de filières qui sont plus grands que nous, en réalité.
Plus grands que nous, si je puis me permettre à nouveau, bigger than us, bigger than real estate. Ce que vous venez de nous dire, et ça va faire la transition toute trouvée avec Étienne Langereau, le maire de Montrouge, c'est qu'en fait, les acteurs de l'immobilier se saisissent d'améliorer leur empreinte sur la biodiversité, à la fois pour des considérations écologiques, de services environnementaux, mais aussi sociétaux. Et que quoi que vous fassiez, et c'est une évidence, cela dépasse le strict cadre de l'île au bâti, et ça fait donc la passerelle avec la ville. Et puis on reviendra avec Catherine Muller, madame la présidente de Valeurs, qui est une collective. Donc quand on parle collectif ici, ça résonne fortement. Hein, des gens dont les intérêts sont parfois divergents se réunissent pour une cause qui est plus grande qu'eux. Donc ça va résonner dans les oreilles de madame la présidente. Mais sur le déploiement, on va parler métier. Monsieur Langereau, donc Montrouge, un peu plus de 48 000 habitants.
50 000 maintenant.
50 000 maintenant. Bon ben voilà, je ne citerai pas cette encyclopédie en ligne qui m'a fourni un chiffre erroné. Ça m'apprendra à bien préparer les émissions. Au cœur de la métropole du Grand Paris, première couronne très proche de la ville de Paris. Montrouge est actif depuis longtemps. Vous avez d'ailleurs un festival de la nature en ville et de l'agriculture urbaine depuis quelques années, auquel Valeurs participe. Vous êtes très actif. Comment est-ce que vous voyez, d'une part, l'importance de la nature en ville pour vos concitoyennes et concitoyens, et puis, d'autre part, la collaboration avec les acteurs de l'immobilier ?
Merci, bonjour, merci pour cette invitation. Alors, Montrouge, c'est un petit village aux portes de Paris, comme vous l'avez dit. Et ce qui caractérise Montrouge, c'est sa très forte densité. On est 50 000 habitants sur 2 km². Ça fait 25 000 habitants au kilomètre carré. C'est plus dense à Montrouge qu'à Paris.
Ouais.
Cette densité, à Montrouge, nous, on l'assume et on la revendique. Parce qu'on estime que la densité, c'est un gage de qualité de vie. Quand la ville est dense, elle est intense, et ceux qui y vivent, ils trouvent des aménités, des services, des commerces, ils ont plaisir à y vivre. Donc vraiment, la question de la densité nous paraît positive. Mmh. Parce que c'est un gros mot, c'est un peu tabou la densité. Mais je crois que si on l'assume et si on la revendique et si on l'organise bien, on peut la faire rimer avec qualité de vie. C'est fondamental. Et dans le débat que vous évoquiez sur comment lutter contre la crise climatique et contre tout ce qui va nous arriver avec le réchauffement, si on limite l'étalement urbain et qu'on fait le pari de la densité, si on préfère la ville qui s'élève à la ville qui s'étale, eh bien il faut choisir cette densité. Et nous, à Montrouge, aux portes de Paris, dans cette métropole qui s'organise K1, K1, on veut être un peu une référence et une vitrine en disant oui, La densité, bien compris, ça peut fonctionner. Alors, c'est quoi la densité heureuse?
Oui,
c'est on revendique. Nous, c'est la densité heureuse. Comment ça marche? On fait vraiment le pari de reconquérir les espaces publics. Car vous le disiez, être dans une ville, c'est y prendre du plaisir et c'est s'approprier les espaces publics. Qu'ils soient végétaux ou non, mais nous, on est en train de supprimer de façon assez forte les voitures en surface, on les enterre, soit dans des parkings privés, soit des parkings publics, et cet espace libéré, on le transforme. Soit avec des places, des espaces publics bien aménagés, et aujourd'hui, on voit fleurir un peu partout dans Montrouge des terrasses de café après la Covid, ça repart très fort, des commerces aussi, et bien sûr, on végétalise. Au cours du dernier mandat, avant les élections municipales de 2020, on a reconquéri 4 hectares d'espace public, on a fait 1,5 hectare d'espace vert, et là, on a plusieurs projets dans la ville du même acabit qui vont permettre de transformer l'espace public. Et donc, ce pari que l'on fait, c'est vraiment concilier densité et qualité de vie, et ça marche. À Montrouge, on a la chance d'avoir 2 lignes de métro, bientôt 3, la 4, la 13, bientôt la 15. Tous les Montrougiens seront à pied à moins de 700 mètres d'une station de métro. Vous me direz, c'est un luxe, c'est une chance, tout le monde ne peut pas l'avoir. Mais on veut, en étant cette vitrine, démontrer que la fameuse ville du quart d'heure dont on parle...
Là, c'est la ville des 10 minutes. Là.
Ouais. C'est la ville des 10 minutes, celle où on a tout, on peut tout faire à pied ou à vélo. C'est vraiment possible. Voilà. Et je pense que si on veut lutter et préparer la ville de demain, la ville dense, il faut tendre vers ce modèle-là et assumer la densité, parce que la densité, c'est aussi la qualité.
Alors, si on assume la densité, on va travailler sur les îlots bâtis plus haut. Donc, vous faites en sorte que les permis soient accordés peut-être pour des élévations plus fortes. Quelle contrepartie, entre guillemets, dans les îlots, vous demandez aux acteurs privés qui interviennent sur la ville? Même punition que vous, c'est-à-dire on fait des efforts, on renature ou on invite plus la nature, on met des parkings en sous-sol, etc.
Absolument, tout le monde est à la même enseigne, c'est-à-dire qu'il faut effectivement conserver des espaces de pleine terre, c'est la préservation des îlots à l'intérieur de la ville, derrière les façades, évidemment, mais c'est aussi le travail sur l'agriculture urbaine, qu'on développe énormément sur toute la ville, y compris avec des bailleurs publics et privés. Oui. Et puis aussi le travail sur la fameuse cinquième façade. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les toits et les terrasses? Voilà. Donc tous les acteurs s'y mettent, à la fois pour végétaliser, désimperméabiliser et contribuer à cette qualité de vie en ville. Voilà, ça c'est fondamental.
Et alors, quand on parle de biodiversité urbaine, on parle aussi de paysage, cette dimension sensible. On va tout de suite laisser la parole à Catherine Muller, mais... on entend de plus en plus qu'un certain nombre de villes demandent aux acteurs de l'immobilier plus de porosité visuelle, c'est-à-dire qu'avant, les façades tournaient le dos et on avait la cour d'immeuble qui pouvait être très belle et végétalisée, mais il fallait absolument que ce soit comme un bunker, que l'îlot privé tourne le dos à la rue. Aujourd'hui, il semblerait qu'un certain nombre de municipalités demandent plus de porosité visuelle, voire la possibilité pour le citoyen d'entrer et de cheminer, alors pas partout, mais dans une partie des résidences. Ça, c'est quelque chose qui vous semble réaliste? Que vous encouragez ou c'est encore une étape à franchir?
Je crois que c'est une étape à franchir, mais on travaille sur les transparences, en effet. L'idée de faire des cheminements piétons dans la ville, un peu les traboules à la montrougienne, c'est en effet un des enjeux. Nous, aujourd'hui, on est en train à Montrouge d'acheter des bâtiments, soit des maisons, soit des immeubles, pour les détruire et en faire des espaces verts, au prix de la charge foncière, à 10 000 euros du mètre carré. On en est là. Parce qu'on considère en effet que chaque mètre carré d'espace vert est un élément de la qualité de vie. Voilà. Donc il faut conjuguer tout ça finement. Et en effet, plus il y aura de cheminement, de transparence, d'ouverture, plus on rendra la ville agréable. Et d'ailleurs, ceux qui objectent que si on fait ces ouvertures, etc., c'est de l'insécurité, etc., c'est faux. Plus la ville est belle et plus elle est agréable à vivre, plus les gens se l'approprient. Mmh. Et ce sont les flux qui, justement, contribuent à la tranquillité publique. Voilà. Donc c'est un tout. Et ce tout, il faut l'organiser et le maîtriser et ne pas subir.
Eh bien, on retient cette poigne et cette nécessité pour les maires de l'organiser. Et puis aussi, on retient les traboules montrougiennes. Il y a comme un jumelage possible avec Belleville en Beaujolais. Hein. Vous partagez des points communs.
Nonobstant les différences entre les villes.
C'est votre but. Voilà, on rappellera Frédéric Pronchéry qui a dû nous quitter. Alors enfin, Catherine Muller, donc toute nouvelle présidente de l'interprofession Valor. Plusieurs questions pour vous. Je les fais par salve. Sabine, ne vous en déplaise. Je vais en poser 3. Qu'est-ce que Valor? Tout d'abord, parce que tout le monde ne connaît pas cette interprofession. Et puis, deuxième question, Sabine Desnaux a parlé de déploiement. Qu'est-ce que les professionnels du végétal et du paysage, on peut dire de plus en plus de la nature en ville, ont à faire avec les sujets qui ont été évoqués? Et puis peut-être, quelle serait votre vision pour cette fameuse biodiversité, nature, vivant? Il y a tout un tas de synonymes qui sont parfois plus ou moins proches qu'on utilise.
Avant de répondre à ces questions, Pierre, je voudrais vous remercier et remercier d'inviter les professionnels que je représente parce que c'est plutôt rare. On est surtout à l'écoute, des propriétaires, des maîtres d'ouvrage. Mais pour qu'un ouvrage soit bien réalisé, il leur faut des professionnels compétents. Et c'est ce que je peux représenter avec cette filière Valor, qui est une interprofession, donc une très belle maison qui rassemble tous les acteurs de la filière. Donc, de la production de végétal, pépinière, fleurs coupées, toute la production pure. Le collège de la distribution avec les revendeurs, on va avoir des grossistes, les distributeurs. Et puis, bien entendu, le collège du paysage qui est rassemblé à la fois par les concepteurs du paysage et les entreprises du paysage, deux mondes un petit peu distincts, comme le sont, j'ai souvent cette image, les architectes et les entreprises de grosses œuvres.
Oublier les fleuristes.
Alors, on a les fleuristes,
pour ce magnifique
bien sûr,
bouquet.
Voilà,
qui ont participé. Il y a un suspense intense pour savoir à qui reviendra le bouquet.
Alors, c'est pas rien, c'est une grosse interpro, c'est tout de même 55 000 entreprises, on représente 15 000 de chiffre d'affaires, 80 000 salariés, enfin donc on est déjà, on fait poids, mais on démarre dans notre reconnaissance publique et auprès des citoyens. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, même si maintenant la nature est engagée dans la ville, elle est engagée, comme vous l'avez dit, comme les témoignages ont fait preuve. Je pense que l'espace urbain ne peut plus être envisagé sans cet apport végétal. Et ça, c'est très important. Et la filière est là pour apporter ses compétences. Je voudrais surtout souligner le fait qu'un bon projet, c'est un projet qui a été bien étudié en amont. Et pour bien l'étudier en amont, il faut faire appel à des spécialistes que sont les concepteurs du paysage urbaniste, parce que c'est eux qui vont réfléchir sur toute la durée de vie de l'ouvrage pendant sa réalisation et surtout la durée de vie après.
La gestion.
Ce qui est important dans notre métier, je le répète très souvent, le bâtiment livre un ouvrage qui va vieillir. Nous, un professionnel du végétal, nous livrons des ouvrages en devenir. Donc ce qui fait, ce qui souligne l'importance des bons choix, vous avez parlé de changement climatique, donc il faut s'adapter, de densification, il faut s'adapter au sol aussi, à l'irrigation, les problèmes de pluie, on en souffre. Donc déjà, à la base, il faut savoir s'adapter à ce concept-là et à ce périmètre de développement. Mais il faut bien se dire que ce qu'on réalise et ce qu'on termine le jour où on fait un coupé de ruban parce qu'on inaugure un bâtiment, ce chantier-là va se développer et va s'intensifier. Et ça, c'est très important. On est là pour les générations futures. Nous faisons un métier, non pas du jour, mais un métier de demain. Quand on plante un arbre, vous le savez, je pense que vous avez tous fait cet exercice plus ou moins familial, dire je plante un arbre à la naissance d'un enfant parce que cet arbre-là vivra toute la vie de cet enfant et puis peut-être plus encore. D'où l'importance d'avoir des professionnels qui s'inscrivent. Et là, madame, donc vous m'avez challengé, puisque vous parlez de recherche, vous allez créer
en fait action,
une recherche. Voilà. Ouais. Et je dirais quelque part, il faudrait aussi y intégrer les professionnels avec leur expérience, leur vision. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment important de participer. Et Valor est là aussi pour pouvoir aider à émettre des guides, tout type de conseils. Donc, c'est cette importance-là. Et merci encore à Pierre de nous raccrocher parce qu'on va peut-être partir sur des nouveaux, sur une belle ambition.
Alors, Nature en ville, on a presque dit l'essentiel. Sabine, vous vouliez rajouter quelque chose?
Je suis obligée de répondre.
La
porte est ouverte. Non, mais parce que peut-être que je ne l'ai pas assez précisé tout à l'heure, en effet, parce que on a annoncé le lancement là tout à l'heure avec nos différents partenaires financiers. mais nous avons toute une série de partenaires, j'allais dire experts, bureaux d'études environnement, des associations aussi spécialisées. Donc on travaille avec des collectivités locales, des institutionnels, etc. Donc au contraire, là on a engagé Big aujourd'hui, et moi avec grand plaisir, rejoignez l'aventure de Big, parce que je pense qu'au contraire, on a besoin de tous ces regards, de toutes ces expériences pour qu'on trouve la meilleure façon définir le pilotage finalement de l'intégration de la nature dans nos projets immobiliers.
Eh bien voilà, bienvenue. La biodiversité urbaine, c'est l'alliance entre le sauvage et le cultivé, avec une petite dose d'humain. On peut parler d'hybridation, ça va parler aux professionnels du végétal qui nous écoutent. La greffe est en train de prendre entre, d'un côté, Big et Valor de l'autre, et puis l'hybridation publique-privée aussi, vous nous en avez apporté
déjà la
preuve, qui existe déjà, oui, mais oui, que l'on a pu renforcer, en tout cas démontrer aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vais simplement préciser deux choses. La première, c'est que le fait d'avoir un effondrement de la biodiversité est aussi pour partie causé par la perte des expériences de nature. Vous, monsieur le maire, avez indiqué que même dans une ville dense, on peut jouir des bienfaits de cette nature, dont Sabine, vous avez indiqué quelques exemples, notamment sur la santé, sur le rafraîchissement, etc. Ça n'est pas tant, et je vais choquer en le disant, notamment nos amis de l'Observatoire des villes vertes, ce n'est peut-être pas tant la surface d'espace vert par habitant ou la distance à un espace vert qui compte, que l'expérience, le vécu sensoriel que l'on en a. Or, aussi déconnectés que nous sommes depuis après-guerre, où nous n'avons plus besoin de cultiver pour nous nourrir, nous sommes très déconnectés de la nature. Nous avons donc besoin de démarches participatives, et pour qu'elles fonctionnent, il nous faut des médiateurs, et ce pourrait être l'objet d'une prochaine émission, mais les jardiniers, privés ou en régie dans les collectivités, main dans la main, il y a Ortis, l'association, on salue son président Pascal Goubier qui était là hier, eh bien nous pourrions travailler sur ce sujet de la médiation. Prenez-moi par la main et je vous montre, dessine-moi un mouton, comment on peut appréhender à nouveau la nature, sa complexité, sa variabilité. Souvenons-nous que nous devons être très humbles, humilité, humus, même racine. Ce sera le fin mot de l'histoire. Je vous invite à nous écouter à nouveau en podcast, en vidéo et de manière audio. Et puis rendez-vous demain. Vous avez parlé de foncier qui est libéré par les nouvelles mobilités. Eh bien, ce sera exactement le thème dont nous allons parler avec Jean-Marc Bouillon, administrateur de Valor et président du fonds de dotation dont nous n'avons pas pu parler, mais il en parlera demain, Intelligence Nature, dédié aux infrastructures vertes. Avec Rami Fischler, qui est un designer qui porte une réflexion sur les nouveaux usages liés à l'appropriation forcée, tout d'abord par les coronapistes et puis les terrasses pendant la période du cœur d'une crise que l'on espère maintenant derrière nous, et puis un élu ou une élue de la mairie de Saint-Ouen. Merci à, je vais commencer à nouveau par les hommes, Frédéric Pronchéry, dont je rappelle qu'il est maire de Belleville en Beaujolais et que au titre de vice-président de sa communauté de communes, il a remporté un prix Capitale Française pour la biodiversité. Merci à vous, monsieur Étienne Langereau, maire de Montrouge et conseiller de la métropole du Grand Paris. Merci Sabine Desnaux, présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable, directrice exécutive de la RSE, de la R&D et de l'innovation, je le fais dans le désordre, de Gessina, et créatrice de Big, vous l'aurez compris, le Biodiversity Impulsion Group. Et enfin, merci à Catherine Muller, paysagiste, mais aussi et surtout présidente de l'interprofession Valor, à laquelle nous devons cette émission. Et je vous l'avais promis, le suspense était entier. Si vous en êtes d'accord, monsieur, par galanterie, qui est une qualité qui se perd, et Madame la Présidente, pour témoigner des savoir-faire de notre filière, c'est à vous, Sabine Desnaux, que nous remettons, sous les applaudissements du public, ce bouquet de fleurs. Évidemment, de fleurs labellisées Fleurs de France, d'accord, production locale.
C'est très honoré, merci.
Voilà, par un fleuriste parisien. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt sur Radio Immo, Radio Territoria et Carbone Zéro.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.